Alors, je vous invite à ouvrir ou à rouvrir la Bible dans le livre de la Genèse et nous allons continuer notre étude, donc au chapitre, fin du chapitre 22. Nous avons ce petit passage qui finit le chapitre 22 et puis on regardera le chapitre 23 en entier. On a fait la lecture avant de façon à pouvoir avancer avec le texte. Donc vous vous souviendrez qu'il y a déjà quelques mois, pratiquement une année, n'est-ce pas, on avait passé du temps à examiner, à étudier l'histoire de la grâce de Dieu dans la maison, dans la famille d'Abraham. Et en effet, il ne s'agit pas de simplement regarder Abraham pour apprendre des choses utiles pour notre vie, très valable, mais derrière Abraham se profile le Dieu d'Abraham, et c'est lui le personnage principal, et surtout l'alliance de grâce que ce Dieu développe depuis la chute, à travers Abraham, et puis dans la croix de Christ, et jusqu'au jour où l'époque glorieuse, où l'épouse glorieuse du Sauveur sera présentée pure et parfaite dans la présence de Dieu, à la gloire de ce Fils rédempteur. On a donc toute cette fresque qui se développe devant nous, et Abraham occupe une place importante. Enfin, la famille d'Abraham occupe une place très importante après tous ces chapitres de la Genèse qui nous montrent les descendances, les choses qui vont de mal en pis. Et puis voilà la famille qui vient et qui se focalise, où la grâce se focalise plus et qui va, de là va venir le peuple juif et la précision des promesses. Donc on a cet arrière-plan qui est très important à garder à l'esprit. Et alors que nous avions étudié cela, on avait laissé Abraham au retour de son voyage au mont Morija. On a mentionné tout à l'heure le sommet, semble-t-il, de la révélation de Dieu à Abraham, cet éternel qui pourvoira le fils de la promesse pour racheter le fils promis. Abraham a emmené Isaac, mais n'a pas sacrifié à Isaac parce que Dieu a pourvu, et il a pourvu dans celui qui sera sacrifié. Ce temps de sacrifice, cette parabole de la substitution, cette parabole aussi de la résurrection, c'est l'importance de Hébreux, là, n'est-ce pas? Cette parabole de l'alliance éternelle est certainement un sommet dans la révélation et certainement un sommet dans l'expérience d'Abraham. Et les circonstances nous ont amenés à interrompre notre étude à ce point, plutôt que d'aller encore trois chapitres jusqu'à la fin, la mort d'Abraham, et de passer ensuite au maillon suivant dans la famille, Isaac. On a dû s'arrêter à mi-chemin, on pourrait dire, et je dois avouer que j'envisageais de reprendre nos études par une sorte d'interlude. On va reprendre tout doucement, là, avec ces quelques chapitres qui, en fait, sont un peu l'histoire d'une fin de vie. Vous savez, quand on commence à ne plus trop sortir, et puis bon, la vie, elle tire vers sa fin, c'est moins important, c'est un peu la fin du livre, c'est pas très important si on le lit ou on le lit pas. Vous voyez, c'était un peu ma pensée, et voilà, je vais faire cela, et puis ensuite on va passer chez Isaac, et puis reprendre les choses à plein. C'est ce que je pensais, mais je me trompais, parce que ces quelques chapitres rayonnent de grâce et de foi. Et notamment le passage qu'on voit aujourd'hui, un passage assez long, il y a la foi qui est là, qui brille, si seulement on veut la voir. C'est un peu comme aujourd'hui, les vignes autour de nous, à cette époque, n'est-ce pas, au mois d'octobre, c'est bien cela, hein. Les feuilles se tournent en or, la force de la plante est passée, le fruit est cueilli, il est récolté, et voilà que maintenant, il y a toute cette beauté de l'automne, hein, la côte d'or, n'est-ce pas? Alors s'il n'y a pas des gelées précoce. Mais c'est cela. Et ici, c'est un peu la même chose. Effectivement, les grandes leçons sont passées. Mais il y a ce flamboyant, cet automne flamboyant de la fin de vie chez Abraham et dans la famille, cette préparation d'Isaac. Et en fait, j'ai été vraiment béni moi-même par cela. La fin de vie d'Abraham est remplie de cette gloire, d'une foi qui est parvenue à maturité, ou plutôt d'une intimité spirituelle avec Dieu qui produit une grande richesse. Et d'où l'intérêt de passer quelque temps là-dedans. Alors notre premier point, on va reprendre tout simplement le texte, là, on fit à Abraham ce rapport. Et c'est la fin du chapitre 22. Après ces choses, on fit à Abraham ce rapport en disant. Et voilà. Alors, on ne sait pas exactement quelle est la chronologie des événements, là, parce que après ces choses, c'est une manière dans la parole de dire on passe à quelque chose d'autre. On ne sait pas exactement la chronologie, mais peu importe. Et ce paragraphe, cette fin du chapitre 22, ce paragraphe est surprenant. On serait tenté de dire qu'il vient, comme on dit de façon familière, comme un cheveu sur la soupe. Quel est l'intérêt de savoir ce qu'il est advenu du clan de Terach que Abraham a quitté il y a plus de 50 ans et dont on n'a pas du tout entendu parler tout au long de ce temps? Quel est l'intérêt de cela? Qu'est-ce que cela peut bien nous enseigner? Mais voilà, Moïse a inclus ce paragraphe-là à cet endroit-là. Et il n'y a pas de cheveux sur la soupe dans la révélation de Dieu. C'est très important que ce soit là. La vie d'Abraham, comme je l'ai dit, tend vers sa fin, même s'il a encore un certain nombre d'années à vivre. On verra ça un peu plus loin, dans une autre étude. Il est certain que la question de l'avenir, et surtout l'avenir de la promesse, l'avenir de cette alliance que Dieu a faite avec lui, il est certain que la question de l'avenir se pose à son esprit. Abraham prend de l'âge et il pense à la suite. La promesse d'un fils s'est réalisée en Isaac, mais la promesse s'étend bien au-delà d'Isaac, jusqu'à posséder Canaan et aussi bénir toutes les tribus du monde, de la terre. Et Abraham se pose la question, comment est-ce que cela va se passer? Parce que Isaac prend de l'âge aussi. Quand nous arrivons à la mort de Sarah, Isaac a 37 ans. C'est déjà bien, bien avancé, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que cela va se passer? Et voilà notre paragraphe. Voilà notre paragraphe. Parce qu'il est certain que Isaac a besoin d'une femme. On parle d'une postérité, n'est-ce pas? Isaac a besoin d'une femme et il est certain aussi qu'elle ne peut pas venir des peuples cananéens. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils seront dépossédés de la terre de la promesse. C'est ce que Dieu a annoncé à Abraham. Le peuple va être en exil et il va revenir. Et ces peuples de Canaan ne peuvent pas faire partie de la promesse. Ça n'est pas possible. Donc, il y a une grande question, une grande interrogation. Et c'est donc après ces choses qu'on transmet une information à Abraham. Et comme je l'ai dit, notre paragraphe là est étrange. Pour la plupart, il fait mention de noms qui ne signifient rien du tout pour nous. Et on ne les voit pas beaucoup. Alors il y a bien Job qui réside dans le pays d'Utz, premier-né de Nachor. Il y a aussi, vous rappellerez, le jeune Élihu qui s'adresse à Job. Alors lui, il est originaire du pays de Buz, où il vient de Buz, probablement une ville. Il y a aussi peut-être Aram, qui serait le peuple des Araméens. Et on pense à la langue araméenne, n'est-ce pas? Il y en a certains qui voient aussi dans un autre nom une préfiguration des Chaldéens, mais on va leur laisser ce souci-là. Mais franchement, là n'est point le point du passage. Qu'est-ce que ce passage nous dit ici? Et le point central de ce petit passage, ce petit cheveu sur la soupe là, c'est la référence à Rebecca. À Rebecca, que Bethuel a engendré. En fait, ce paragraphe est un rappel de Genèse 3,15. Et Abraham le prend comme cela parce que Abraham est un homme de foi. Et sa foi est parvenue à maturité. Ce passage de Genèse 3,15 où l'Éternel annonce au serpent la venue d'un libérateur qui est la postérité de la femme. Et ici, on a une liste de noms d'hommes, mais c'est simplement passant. Ce qui est important, c'est que, voilà, il y a Rebecca dans cette liste. Dans cette liste de noms masculins, donc, sans grande utilité, brille le nom d'une femme. C'est un clin d'œil divin. Et c'est l'importance de notre passage. Or, Dieu n'est pas intéressé dans cette dynamique féministe actuelle qu'on voit dans notre société, qui est complètement débridée, n'est-ce pas? Plutôt, il est en train de nous dire, et il est en train de dire à Abraham, « Je suis toujours au contrôle. Toi, tu vas partir, rempli d'années, hein, et la promesse continue, parce que je suis toujours au contrôle. Mon alliance avance et tout est déjà prêt. » Bethuel a engendré Rebecca, une jeune femme. Abraham est en train de décliner, il sera bientôt veuf d'ailleurs. Isaac n'est pas encore pleinement en place, il est encore dans l'ombre de son père. L'alliance de Dieu va-t-elle se poursuivre? Comment va-t-elle se poursuivre? Verrons-nous un jour surgir cette postérité de la femme qui a été promise? Est-ce que Dieu est fiable? Eh bien, oui, on fit un rapport à Abraham. Et Moïse, en mettant ce petit passage-là, nous dit, non, l'alliance ne concerne pas Abraham, elle concerne Dieu. C'est Dieu qui fait quelque chose à travers Abraham. Et le vieux patriarche a reçu cette assurance de la part de Dieu avec foi. Sa foi est à maturité. Il comprend ce que Dieu est en train de dire ici. Et il le garde en lui-même. Et c'est pour cela qu'au chapitre 24, il instruit son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils. Et il lui dit, surtout ne prends pas parmi les Cananéens une femme pour mon fils. Verset 3 du chapitre 24. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré le chemin à suivre. Voilà la direction de Dieu. Et c'est la foi qui s'en saisit. Ça n'est pas notre intelligence, bien que l'intelligence soit là, mais c'est la foi qui se saisit, qui comprend ce que Dieu dit. Et cela est une leçon pour nous. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous nous demandons si nous allons tenir dans la foi, par exemple? Pour beaucoup d'entre nous, on voit plus notre péché qu'on voit nos progrès. On voit plus la force des autres. Enfin, non, on voit la force des autres et cela nous montre notre propre faiblesse. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous nous demandons si vraiment toute l'histoire du salut va se terminer comme la Bible le dit? Parce que le peuple de Dieu est tout petit aujourd'hui. Et même ceux qui sont fidèles au milieu de ce peuple sont peu. Faut-il continuer d'avancer sur ce chemin difficile et solitaire, le chemin de la vérité? Voilà une question qui se pose. N'ayons pas peur de faire face à ces questions qui sont réelles, même si la chrétienté ne les regarde pas comme spirituelles. On nous dit aujourd'hui, il ne faut pas questionner, il ne faut pas remettre en doute. Alors, d'une certaine manière, c'est vrai, mais les questions sont réelles et nous devons les aborder. Pourquoi? Parce que Dieu y répond. Et c'est exactement ce qu'il a fait ici pour Abraham. Apprenons donc de lui et regardons ces questions bien en face, sans honte, car la réponse est un oui résonnant de force. Dieu va accomplir ses promesses. Il l'a fait, il le fait et il le fera jusqu'au bout. Et ces promesses ne sont pas des peut-être, ce ne sont pas des choses vagues, mais très claires. Abraham, lui, peut aller vers la fin de sa vie. Il a encore plusieurs dizaines d'années à vivre, hein, mais quand même. Sarah peut mourir. Isaac peut se demander comment la promesse va s'accomplir dans sa vie. On va voir que Isaac est là à méditer le soir dans les champs. Sur quoi est-ce qu'il médite? Il médite probablement sur son avenir. En contrepartie, Dieu est à l'œuvre, comme il l'a toujours été. Et Dieu est à l'œuvre aujourd'hui, comme il l'a toujours été, dans nos vies, dans ma vie et tout autour. Nachor engendre 8 fils à Milka. Ah. Et puis ensuite, 4 à la concubine, on en est à 12. N'est-ce pas? C'est bien plus que Abraham. Abraham a eu Isaac, il a eu Ismaël, bon, c'était peut-être une erreur, mais enfin, il l'a eu quand même. Et puis ensuite, il y en a quelques autres, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils sont nés, mais c'est quand même beaucoup moins que Nachor. Mais voilà Bethuel, et on laisse les autres partir de côté. Et on ne parle pas, même pour Bethuel, on ne parle pas de son fils Laban. On n'en parle pas ici, pas du tout. Il viendra plus tard, mais voilà Rebecca. La promesse continue. Et vous voyez la richesse de ce texte. La promesse continue. Et celui qui a le regard de la foi voit ce que Dieu fait. Il le voit à cette époque et il le voit combien de fois depuis. Toutes les pages de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu, nous montrent comme quoi Dieu est à l'œuvre. Et il tient sa promesse continue. Et Abraham ne savait pas le nom Jésus, nous le savons, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes à l'écoute du rapport qui vient de Dieu? Est-ce que nous savons détecter ce que Dieu dit à travers les événements de notre vie? Est-ce que nous levons le regard de la foi, comme Abraham le fit, qui, par la foi, a vu l'invisible et s'est tenu sur la promesse. Et c'est pour cela que le texte que nous avons lu dans Hébreux est important, parce qu'il donne une explication. Abraham se tenait, était enraciné sur cette promesse. Et c'est ça, toute la dimension de l'alliance. Dieu a promis quelque chose, il s'y tient, et son peuple le suit, son peuple fixe les regards sur cette promesse certaine. On fit un rapport à Abraham et Abraham a entendu. Notre deuxième point, parce qu'on avance dans le texte, Sarah mourut. La mort de Sarah, c'est un autre rapport qui atteint Abraham, celui de la mort de sa femme. Pour diverses raisons, il semble qu'ils n'étaient pas ensemble à ce moment-là. On n'a pas besoin de voir quelque chose de grave là-dedans. Peut-être qu'Abraham était à Beersheba pour des raisons de traiter les troupeaux, ou que sais-je encore. Peut-être que Sarah était à Kirjat Arba parce qu'elle ne pouvait pas aller à Beersheba. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais voilà qu'un rapport atteint Abraham, et Abraham vient à Kirjat Arba et il vient auprès de celle qui a marché à ses côtés pendant plus de 60 ans, parce que maintenant, elle vient de partir. Tout ce temps-là ensemble, c'est le lot de notre race, et les croyants n'en sont pas exempts. Cela arrive, il arrive au juste comme à l'impie, il meurt. Et ceux qui veulent nous faire croire que Dieu ne veut pas que nous soyons malades, Dieu ne veut pas que nous soyons affaiblis et tout ça, ils nous trompent, parce que nous arrivons tous à ce point où, comme Sarah, vient le temps de partir. Le jour vient où ce corps de mort repose dans la mort, mais pour le croyant, cette terrible séparation, et elle est terrible, ne vient pas comme pour l'incroyant. Il y a une grande séparation là. En effet, le croyant, Celui à qui Dieu a donné une vie nouvelle, il vit, il est sauvé en espérance, nous dit Paul. Romains chapitre 8, verset 24. Sauvé en espérance, de même que Christ est ressuscité corporellement d'entre les morts, le croyant a cette promesse qu'il verra Dieu dans un corps nouveau, un corps incorruptible et immortel. Et vous rappelez que Job lui-même, à la période d'Abraham, avait cette espérance, cette précision, cette clarté. Est-ce que cette espérance vit en moi ? Est la question qui se pose à chacun de nous. Est-elle bien fondée ? Est-ce que je vis à la lumière de cette espérance ? Nous lisons qu'Abraham vint pour mener le deuil sur Sarah et pour la pleurer. En fait, l'expression signifie plutôt que un côté émotionnel, il y avait certainement la dimension là, mais cette expression signifie plutôt qu'il s'occupe de tout ce qui est nécessaire pour disposer dignement de la dépouille de sa femme. Et on a tout le reste du chapitre qui nous montre certaines de ces dispositions. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que le cœur d'Abraham ressentait vivement la déchirure. Il n'y a que peu de temps, que peu de moments pendant tout ce temps-là où ils ont vécu séparés. Et voilà que maintenant elle n'est plus là. Il se souvenait certainement de tous les épisodes qui les avaient unis depuis cette vocation à Ur, où Dieu a touché le cœur d'Abraham et le voilà qui doit partir. Mais il part avec Sarah et Sarah part avec lui plutôt. Est-ce qu'il pense à cela ? Parce que Sarah a répondu par la foi, n'est-ce pas ? C'est ce que Pierre nous fait entendre, hein, cette femme de foi, dans sa première lettre. Il pense peut-être à tous ces moments très intimes, d'autres moins glorieux, certains moments même dangereux, en Égypte, où lui-même a mis en danger sa femme. Est-ce qu'il pense à ces moments vraiment peu glorieux où Sarah a posé la main sur Agar et l'a mise dans le lit d'Abraham, et puis ensuite les moments où Sarah laissait vraiment sa chair parler? Probablement que toutes ces choses se bousculent dans l'esprit d'Abraham. Et il est là, il prend le deuil de son mort, comme il dit. Mais il est aussi certain que les pensées d'Abraham ne se centraient pas totalement sur Sarah, mais plutôt sur celui qui avait fait de Sarah une princesse. Parce que rappelons-nous, ce n'est pas Sarah qui a quitté Ur, c'est Saraï. Mais Dieu lui a donné un nouveau nom et en a fait une princesse. C'est le sens de ce nom. Et nous lisons que Abraham se leva de devant son mort. Et cette expression est belle en fait, elle est riche. La dépouille est là, la personne est partie, mais la dépouille est là et il faut s'en occuper. Mais Dieu est toujours vivant. Dieu est toujours vivant. Si Sarah est un maillon important dans l'histoire de la rédemption, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Oui, Abraham mène le deuil et il s'occupe de la dépouille de Sarah, mais avant tout, il marche dans la foi, comme nous allons le voir dans un moment. C'est un homme de foi, même dans le deuil, même face à son mort, comme il dit. Et l'Écriture déclare que le croyant ne s'afflige pas devant la mort comme le font ceux qui n'ont pas d'espérance. Et cela est vrai, et on peut le voir. Mais veillons à ne pas penser à cela d'une manière qui est détachée de la réalité. Dans un sens, pour le croyant, le deuil est plus aigu. Il touche beaucoup plus profondément, parce que la communion a été plus intime et spirituelle. Dans le cas d'une séparation avec un non-croyant, on connaît par la foi quelle est sa destination. Et il y a ce côté-là qui produit vraiment une douleur, n'est-ce pas ? Les proches qui partent, qui ne connaissent pas le Seigneur, ça, c'est un couteau qui perce le cœur, n'est-ce pas ? Mais il y a ces côtés-là. Mais un côté qui rend le deuil plus aigu. Mais en même temps, C'est moins douloureux, parce que la foi ouvre les yeux sur l'autre dimension, sur la dimension de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, mais en espérance, parce que en Christ, il va y avoir une réunion de nouveau. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Il y a ces passages dans la parole qui dit qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage, choses comme ça, un peu obscures. Mais la chose est sûre que ensemble, tous les croyants glorifieront, loueront le Seigneur dans un corps ressuscité, incorruptible, dans la gloire, alors qu'il n'y a plus rien qui entache la création. Et donc, le deuil n'a quand même pas cette finalité, comme dans le cas d'un incroyant. Donc, il y a les deux côtés. Et la parole nous dit bien que le croyant ne s'afflige pas devant la mort comme le fait l'incroyant. Pourquoi ? Parce qu'il a encore l'espérance. Veillons, mes amis, à mener le deuil et à pleurer si nous passons par cela, mais faisons-le en espérance, comme des croyants, par la foi. Et c'est ce que Abraham fait. Et en troisième lieu, on va regarder la fin du chapitre. Alors, vous passerez du temps à lire le chapitre et à le méditer. Mais nous regardons maintenant la caverne de Macpéla. Ça semble bizarre, encore une fois. Mais c'est là. Parce que notre récit rapporte longuement les tractations entre Abraham et les fils de Heth. Vous avez vu toutes ces tractations qui sont très colorées d'orientalisme, là. Ces manières nous sont quelque peu étranges et étrangères, en fait. On ne fait pas ces choses chez nous comme ça, quoique. Et elles s'étendent sur presque tout un chapitre. Que faut-il penser de cela? Parce que là, ce n'est pas que Moïse a tant de pages à remplir et donc il va broder. Hein, Moïse ne brode pas, la parole de Dieu ne brode pas. Que faut-il penser de tout cela? Tout d'abord, rappelons-nous qu'Abraham est un homme de foi. Et il faut le rappeler continuellement. Son champ de vision s'étend au-delà de l'univers physique qui l'entoure. Il a reçu des promesses de la part de Dieu et par la foi, il s'est saisi de ces promesses. Et depuis des années et des années et des années, il marche dans la force de ses promesses, dans la force de sa foi. Ici, nous voyons la détermination de sa foi. Les fils de Heth lui propose plusieurs solutions qu'on qualifiera de faciles. Abraham a besoin de disposer de la dépouille de son mort, comme il dit. Il faut mettre cette dépouille à l'abri. Alors, il demande une sépulture. Et les fils de Heth, avec grande générosité, on pourrait dire, disent, mais prends n'importe lequel, on ne va pas te refuser ça, franchement. Et s'ils faisaient preuve d'hospitalité dans la vie, même chose dans la mort. Des choses qui sont faciles, mais c'est la foi qui anime Abraham. La foi en la promesse qu'il héritera le pays de Canaan et la promesse que ses descendants le posséderont. Et c'est pour cela qu'il est déterminé à acheter cette caverne. Même s'il faut pour cela dépenser plus qu'il a prévu, pour acquérir aussi le champ. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui nous disent qu'il a payé un prix exorbitant pour le champ. Ça me semble un peu bizarre, en fait on ne sait pas vraiment, mais il semble que le champ était un grand champ rempli d'arbres. Et vous savez, la richesse que les arbres peuvent revêtir. Donc il a tout cela. La chose importante, c'est que non seulement il a la caverne, mais il a le champ, et Abraham acquiert cela. Mais si on en croit la révélation de Dieu, ce n'est pas simplement un sépulcre ou une terre promise qui sont devant les yeux d'Abraham. Abraham veut acheter ce sépulcre, cette caverne. Pourquoi ? Pour montrer par une sorte de parabole, une déclaration de sa part, qu'en fait, cette terre lui est promise et elle lui appartient. Mais ce n'est pas simplement cette terre promise, ce n'est pas simplement ce Canaan géographique qui sont devant ses yeux. Après tout, il vient de recevoir le rapport au sujet de sa famille et il pourrait aller à Charan pour ensevelir son mort. La dépouille de Sarah, il pourrait. Ce n'est pas si loin, en fait. Mais la promesse de Dieu ne dit rien de Charan. Cette promesse, elle se fixe sur Canaan. En fait, nous dit Hébreux, Abraham a vu par la foi les choses promises et les a saluées de loin. Il se reconnaît comme étranger, voyageur sur la terre. La promesse est vraie, mais elle n'est pas pour maintenant. C'est ce que Dieu lui a révélé. Vous vous rappelez quand ils ont coupé l'alliance, que les flammes sont passées entre les animaux. Là, avant cela, Abraham est tombé dans une dépression et il y a eu un profond sommeil. Il lui a été révélé que ses descendants seraient assujettis dans un pays étranger. Donc ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas en fait un Canaan géographique qu'il cherche. Et il a bien compris en fait que Dieu lui promet quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est ? C'est une patrie. Et ce n'est pas la patrie d'où il vient, ce n'est pas la famille de Terach, ce n'est pas son clan. Parce que comme le dit Hébreu, il aurait pu y retourner assez facilement. Non, c'est une patrie qui est meilleure, c'est-à-dire une patrie qui est céleste, qui n'appartient pas à ce monde. C'est la patrie dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et tout au long, Abraham s'appuie et bâtit sa foi, en fait, si je puis dire, sur les promesses depuis Genèse 3:15. Parce que quand Dieu dit la postérité de la femme, il dit en fait, l'homme ne sera pas acteur là-dedans. Ça n'est pas la postérité de l'homme, c'est ce que Dieu fait. Et Abraham le sait, et donc c'est Dieu qui est l'architecte de cette patrie. Et nous la voyons aujourd'hui, beaucoup plus clairement peut-être que lui. Et ainsi, pour la sépulture de ses morts, Abraham achète par la foi la seule portion de la terre promise qu'il possède. Est-ce que nous avons les yeux fixés sur le même but qu'Abraham? C'est intéressant que Abraham, en achetant ce sépulcre, il fait une déclaration, en fait, une déclaration de foi. C'est la seule partie de Canaan qui m'appartient, et en fait, c'est pour la dépouille, c'est pour la mort, parce que je meurs en espérance. Vous voyez comme la foi d'Abraham brille. C'est merveilleux. Si seulement on s'arrête pour regarder ces choses, on voit tout le filigrane de la grâce de Dieu qui est derrière. Parce que ce sont des choses qui ne sont point montées à la pensée des hommes et qui sont réservées par Dieu. Mais c'est Dieu qui les révèle. Mais mes amis, je ne peux pas m'empêcher de penser à une autre caverne. On parle ici de la caverne de Macpéla. C'est intéressant, le mot veut dire là, une caverne double. Mais je pense à une autre caverne dont on parle beaucoup plus tard. Ici, Abraham achète la caverne de Macpéla pour y être mis dans la mort. Et d'une certaine manière, sa dépouille est toujours là. Alors c'est intéressant qu'on nous a dit que dans la région, là, il y a une espèce de bâtiment religieux qui est construit sur ce qui est réputé être le lieu de la caverne de Macpéla. C'est vrai, c'est pas vrai, ça c'est pas notre problème. Enfin, c'est pas le mien tout au moins. Mais il paraît qu'en dessous de cela, il y a des restes humains. Bon, est-ce que quelqu'un veut prouver trop? C'est pas important. Mais en quelque sorte, la dépouille d'Abraham est toujours là. Est toujours là. Le monde a oublié, mais la promesse tient toujours. Cette promesse qui est donnée au tout premier jour de l'histoire, qui est répétée et précisée maintes fois. Et voilà le jour où, sur le mont Morija, donc on revient d'un chapitre en arrière, un agneau est offert. À l'époque d'Abraham, c'était un bélier, mais voilà que là, maintenant, c'est un agneau avec un A majuscule, n'est-ce pas? Ce n'est pas un animal, mais c'est la postérité de la femme. C'est le Fils de Dieu qui met à mort la mort dans sa mort. Et le voici qui est déposé dans un tombeau creusé dans le roc. Mais cette caverne, ce tombeau, cette deuxième caverne, si je puis dire, n'est pas achetée. Elle est prêtée. Prêtée seulement. Elle est prêtée parce qu'elle ne va pas servir pendant bien longtemps. N'est-ce pas? 3 jours au plus. En effet, la mort est vaincue. Et la promesse faite à Abraham s'est accomplie. Et la mort ne peut pas tenir plus longtemps celui qui occupe cette caverne. Le vieux patriarche a vu par la foi le jour de Christ et il s'en est réjoui. C'est-à-dire, vous savez, il y a ces réjouissances qui sont le bouillonnement comme ça, mais ça disparaît assez rapidement. Et puis, il y a ces réjouissances qui sont ces grands courants profonds qui remplissent de paix, qui remplissent de sérénité. C'est cela. Il s'en est réjoui. Il a vu le jour de Christ de loin. Mais il s'en est réjoui. Et c'est toute la base de sa détermination à acheter cette caverne. Parce que le tombeau de Christ est vide. La caverne de Macpéla, un jour, va rendre les dépouilles qu'elle contient. Ces dépouilles qui seront là, à la voix de l'archange, au son de la trompette, vont se lever. Incorruptibles, immortelles, comme celles de tout croyant. Et voilà vraiment le message que Abraham donne en achetant la caverne de Macpéla. Voilà le message que Abraham donne vers la fin de sa vie, alors qu'on pourrait dire c'est une fin de vie, c'est voilà, il est mis dans une maison de retraite et puis on ferme la porte, on l'oublie. Non, c'est là qu'il brille de tous les feux de sa foi, cette foi que Dieu lui a donnée. Et mes amis, est-ce que nous voyons le Seigneur Jésus briser ses liens funèbres, comme dit le cantique? Il vient bientôt. Est-ce que c'est là notre espérance? Est-ce que je l'attends dans la foi? Est-ce que je l'accueillerai dans la joie? Abraham, dans la maturité de sa foi, nous montre le chemin. Et nous nous réjouissons, nous aussi, de voir ce qu'il a vu. Que le Seigneur nous bénisse en nous donnant d'appliquer ces choses à notre cœur et à notre vie, et qu'il se glorifie. Amen.